Chapitre 21. La quête s'achève. 101. Trévise se retrouva dans un état de totale incrédulité. Il s'était remis de l'étrange euphorie qu'il avait éprouvée juste après l'alunissage. Une euphorie, soupçonnait-il à présent, imposée à sa personne par le soi-disant robot qui se tenait là devant lui. Trévise le fixait toujours, et maintenant qu'il avait l'esprit parfaitement lucide et clair, il était éperdu d'étonnement. Il avait parlé, empli de surprise, discuté, toujours aussi surpris, tout juste compris ce qu'il pouvait dire ou entendre dans ses efforts pour trouver chez cet être qui avait toutes les apparences d'un homme, dans son aspect, son comportement, son élocution, quelque chose qui pût trahir le robot. Pas étonnant, se dit Trévise, que Joie eût détecté quelque chose qui ne tenait ni de l'humain, ni du robot, mais qui était, selon les termes mêmes de Pellorat, quelque chose de nouveau. C'était d'ailleurs aussi bien, jugeait-il, car l'événement avait détourné le cours de ses pensées vers des perspectives beaucoup plus positives, quoique pour l'heure ses préoccupations fussent reléguées à l'arrière-plan. Joie et Phalum étaient partis explorer les lieux. Sur la suggestion de Joie, May crut déceler Trévise, non sans un échange de regards, bref comme l'éclair, entre elle et Danil. Lorsque Phalum refusa, en demandant de rester avec la créature qu'elle persistait à appeler Jembi, un seul mot de Danil, le ton grave, le doigt levé, suffit à la faire détaler aussitôt. Trévise et Pellorat restèrent.
« Ce ne sont pas des fondatrices, messieurs. »
dit le robot comme si cela expliquait tout.
L'une est Gaïa, et l'autre une spatiale.
Trévise garda le silence tandis qu'on les menait sous un arbre où les attendaient des sièges tout simples. Ils prirent place à l'invitation du robot, et quand ce dernier se fut également assis avec un mouvement parfaitement humain, Trévise demanda « Êtes-vous réellement un robot ?»«
Absolument, monsieur, »
dit Danil. Le visage de Pellorat semblait rayonner de joie.
On trouve, dans les anciennes légendes, des références à un robot appelé Danil. Portez-vous ce nom en son honneur ?
Je suis ce robot,
répondit Danil.
Ce n'est pas une légende.
Oh non,
dit Pellorat. Si vous étiez ce robot, vous devriez être âgé de milliers d'années.
20 000.
Précisa tranquillement Danil. Pellorat en resta quoi? Il jeta un coup d'œil vers Trévise qui lança avec un rien de colère « Si vous êtes un robot, je vous ordonne de dire la vérité. »
« Je n'ai pas besoin qu'on me l'ordonne, monsieur. Je suis obligé de dire la vérité. » « Vous vous trouvez, monsieur, confronté à 3 possibilités. » Ou je suis un homme qui vous ment, ou je suis un robot programmé pour se croire âgé de 20 000 ans, mais qui en fait ne l'est pas, ou je suis un robot bel et bien vieux de 20 000 ans. Vous devez décider quelle hypothèse vous choisissez.
Le problème se résoudra peut-être au cours de la conversation, dit sèchement Trévise. Tant que nous y sommes, il est difficile de se croire à l'intérieur de la lune. Ni la lumière, se disant il leva les yeux car celle-ci, douce et diffuse, était précisément celle d'un soleil voilé, bien qu'il n'y eût nul soleil dans le ciel, lequel ciel d'ailleurs n'était pas non plus clairement visible. Ni la pesanteur ne semble crédible. Ce monde devrait avoir en surface une gravité inférieure à 0,2 g.
« La gravité normale en surface serait précisément de 0,16 g, monsieur. Elle est toutefois recréée par les mêmes forces qui vous procurent, à bord de votre astronef, la sensation d'une gravité normale, même quand vous êtes en apesanteur ou en accélération. Les autres besoins en énergie, y compris la lumière, sont assurés selon les mêmes principes, même si nous recourons à l'énergie solaire lorsque c'est plus pratique. » Tous nos besoins matériels sont couverts par le sol lunaire, à l'exception des éléments légers, hydrogène, carbone, azote, que la Lune ne possède pas. Nous les obtenons, en capturant à l'occasion une comète. Une capture par siècle est plus que suffisante pour couvrir nos besoins.
J'en déduis que la Terre ne vous sert en rien pour votre approvisionnement.
Hélas, non, monsieur. Nos cerveaux positroniques sont tout aussi sensibles à la radioactivité que les protéines humaines.
Vous employez le pluriel, et la résidence que nous contemplons ici nous semble vaste, superbe, raffinée, en tout cas vue de l'extérieur. Il y a donc d'autres êtres sur la Lune? Des hommes? Des robots?
Oui, monsieur. Nous avons sur la Lune une écologie complète, entièrement cantonnée dans ce vaste et complexe ensemble creux. Les créatures intelligentes, cependant, sont toutes des robots plus ou moins semblables à moi.
Vous n'en verrez toutefois aucun.
Quant à cette résidence, elle est à mon seul usage et a été construite sur le modèle exact de celle dans laquelle je vivais il y a 20 000 ans.
Et dont vous vous souvenez en détail, n'est-ce pas?
Parfaitement, monsieur. J'ai été construit et j'ai existé durant un temps, si bref puisse-t-il me sembler aujourd'hui, sur le monde spatial d'Aurora.
La planète, oh!
Trévise se tut.
Oui, monsieur.
La planète aux chiens.
Vous êtes au courant?
Oui, monsieur.
Comment se fait-il que vous ayez abouti ici, si vous avez d'abord vécu sur Aurora?
Monsieur, c'est pour éviter la création d'une terre radioactive que je suis venu ici, dans les tout premiers temps de la colonisation de la galaxie.
J'étais accompagné d'un autre robot du nom de Guiscard, capable de percevoir les esprits et de les modifier.
Comme Joie?
Oui, monsieur.
Nous avons échoué en un sens, et Guiscard a cessé de fonctionner. Avant son arrêt, toutefois, il a pu me transmettre son talent et m'a laissé le soin de surveiller la galaxie et la Terre tout particulièrement.
Pourquoi particulièrement la Terre?
En partie à cause d'un homme, du nom d'Elijah Bailey, un terrien.
C'est le héros culturel dont je vous ai déjà parlé, Golan,
intervint Pellorat, tout excité.
Un héros culturel, monsieur?
Ce que veut dire le docteur Pellorat, c'est qu'il s'agit d'une personne à qui l'on attribue quantité de choses et qui peut être l'amalgame de plusieurs personnages de l'histoire réelle, voire un personnage totalement inventé.
Daniel réfléchit quelques instants, puis dit enfin, d'une voix très calme.
Il n'en est rien, messieurs. Elijah Bailey fut un homme bien réel, et il était seul. J'ignore ce que vos légendes disent de lui, mais dans l'histoire réelle, jamais la colonisation de la galaxie n'aurait pu avoir lieu sans lui. En son honneur, j'ai fait de mon mieux pour récupérer ce que j'ai pu de la Terre après qu'elle eût commencé à devenir radioactive. Mes semblables s'étaient répartis dans toute la galaxie pour s'efforcer d'influencer telle personne ici, telle autre là. À un moment donné, j'ai été l'instigateur d'un projet de recyclage du sol de la Terre. À un autre moment, beaucoup plus tard, j'ai été l'instigateur d'un autre projet destiné à terraformer une planète en orbite autour d'Alpha Centauri A. Dans l'un et l'autre cas, je n'ai pas vraiment eu de succès. Je n'ai jamais pu parfaitement ajuster l'esprit humain comme je le désirais, car il y avait toujours le risque que j'endommage les divers humains qui étaient ajustés. J'étais lié, voyez-vous, et je le suis encore, par les lois de la robotique.
Oui.
Il ne fallait pas avoir les pouvoirs mentaux de Daniel pour déceler de l'incertitude dans ce monosyllabe.
La première loi, monsieur, s'énonce comme suit. Un robot ne peut blesser un être humain ou par son inaction permettre qu'un être humain soit blessé.
La deuxième,
un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par des êtres humains, sauf quand de tels ordres s'opposent à la première loi.
La troisième, Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu'une telle protection ne s'oppose pas à la première et à la deuxième loi. Naturellement, je vous les cite avec l'approximation du langage humain. En réalité, elles représentent de complexes configurations mathématiques de nos synapses positroniques. Ne trouvez-vous pas difficile de vous conformer à ces lois?
J'y suis obligé, monsieur. La première loi est un absolu qui m'interdit presque totalement d'user de mes talents mentaux.
Lorsqu'on a affaire à toute la galaxie, il y a peu de chances qu'une action quelconque prévienne totalement le mal. Il y aura toujours un certain nombre de personnes, un grand nombre peut-être, qui souffriront qu'un robot doive minimiser le mal. Pourtant, la complexité des options est telle qu'opérer un tel choix exige du temps, et que même alors on n'a jamais aucune certitude.
Je vois très bien, dit Trévise.
Tout au long de l'histoire galactique, poursuivit Daniil, j'ai essayé d'améliorer les pires aspects des querelles et des désastres qui affligent en permanence la galaxie. J'ai pu réussir à l'occasion, dans une certaine mesure, mais si vous connaissez votre histoire de la galaxie, vous aurez noté que ces succès furent rares et limités.
Ça au moins je le sais, dit Trévise avec un sourire désabusé.
Juste avant sa fin, Guiscard conçut une loi de la robotique qui supplantait même la première. Nous l'avons appelée la zéroième loi, faute de pouvoir imaginer un autre nom logique. La zéroième loi s'énonce ainsi. Un robot ne peut pas blesser l'humanité ou par son inaction permettre que l'humanité soit blessée. Cela signifie automatiquement que la première loi doit être modifiée comme suit. Un robot ne peut pas blesser un être humain ou par son inaction permettre qu'un être humain soit blessé, sauf quand cela s'oppose à la zéroième loi. Et des modifications similaires doivent être apportées aux deuxième et troisième lois.
Trévise plissa le front.
Comment pouvez-vous décider de ce qui risque ou non de nuire à l'humanité prise dans son ensemble?
Précisément, monsieur, dit Daniil.
En théorie, la zéroième loi constituait la réponse à nos problèmes. En pratique, nous ne pouvions jamais décider. Un homme est un objet concret, on peut évaluer et juger la blessure infligée à un individu. L'humanité, en revanche, est une abstraction. Comment s'y prendre?
Je ne sais pas, dit Trévise.
Attendez, intervint Pellorat. Vous pourriez convertir l'humanité en un organisme unique, Gaïa?
C'est bien ce que j'ai tenté de faire, monsieur. J'ai manigancé l'établissement de Gaïa. Si l'humanité pouvait être réunie en un seul organisme, elle devenait alors un objet concret, manipulable. Créer un super organisme ne s'avéra toutefois pas aussi facile que je l'avais espéré. En premier lieu, cela ne pouvait pas intervenir avant que les hommes n'estiment le super organisme plus que leur individualité, et il me fallait trouver une disposition d'esprit qui l'autorisât. Il me fallut du temps avant que je songe aux lois de la robotique.
Ah, alors les Gaïens sont bien des robots. Je l'avais soupçonné depuis le début.
En ce cas, vos soupçons étaient erronés, monsieur. Ce sont des êtres humains. Mais leur cerveau s'est vu inculquer un équivalent des lois de la robotique. Ils doivent estimer la vie réellement. Pourtant, même après que cela fut réalisé, il subsistait encore un sérieux défaut. Un super-organisme uniquement formé d'êtres humains est instable. Il est impossible à établir. Il faut absolument y ajouter d'autres animaux, puis des plantes, puis le monde inorganique. Le plus petit super-organisme qui soit vraiment stable est une planète entière. Et encore,
suffisamment vaste et complexe pour être dotée d'une écologie stable. Il a fallu longtemps pour comprendre cela. Et ce n'est qu'au cours du siècle dernier que Gaïa a été intégralement instaurée et qu'elle est devenue prête à se répandre sur la galaxie. Et même ainsi, cela va exiger encore un temps fort long. Certes, peut-être pas aussi long toutefois que le chemin déjà parcouru, puisque nous connaissons maintenant la règle du jeu.
Mais vous aviez besoin de moi pour prendre la décision à votre place. C'est cela, Daniil.
Oui, monsieur. Les lois de la robotique ne me permettraient pas, ni à moi ni à Gaïa, de prendre la décision et de courir le risque de nuire à l'humanité. Et entre-temps, il y a 5 siècles, lorsqu'il semblait que je serais incapable de définir les méthodes pour contourner toutes les difficultés qui se dressaient sur la voie de l'instauration de Gaïa, je me suis rabattu vers le 2e choix, en contribuant au développement de la science, de la psychohistoire.
J'aurais dû m'en douter, grommela Trévise. Vous savez, Daniil, je commence à croire que vous avez bel et bien 20 000 ans.
Merci, monsieur.
Un instant, dit Pellerat. Il me semble discerner quelque chose. Faites-vous vous-même partie de Gaïa, Daniil? Serait-ce de la sorte que vous étiez au courant de l'existence des chiens sur Aurora par l'entremise de Joie?
Dans un sens, monsieur, vous avez raison. Je suis associé à Gaïa, bien que n'en faisant pas partie.
Trévise haussa les sourcils. Ça me fait penser à Comporélon, le monde que nous avons visité juste après avoir quitté Gaïa. Ils insistent bien sur le fait qu'ils ne font pas partie de la Confédération de la Fondation, mais y sont seulement associés.
Lentement, Daniil acquiesça. Je suppose que l'analogie est pertinente, monsieur. Je puis, en tant qu'associé de Gaïa, prendre conscience de ce dont Gaïa est consciente, en la personne de cette femme, Joie, par exemple. Gaïa, cependant, ne peut se rendre compte de ce que je perçois, de sorte que je préserve ma liberté d'action. Cette liberté d'action reste nécessaire jusqu'à ce que Galaxia soit fermement établie.
Trévise fixa longuement le robot, puis demanda « Et avez-vous utilisé votre perception par l'intermédiaire de Joie pour vous immiscer dans les événements de notre voyage ?» afin de les rendre conformes à vos désirs personnels.
Daniil eut un soupir curieusement humain. Je ne pouvais faire grand-chose, monsieur. Toujours retenu que j'étais par les lois de la robotique. Et pourtant, j'ai allégé le fardeau pesant sur l'esprit de Joie, assumant moi-même une petite partie du surcroît de responsabilité pour lui permettre de s'occuper des chiens d'Aurora et du spatial de Solaria avec plus de promptitude et moins de conséquences négatives pour elle. En outre, j'ai influencé la femme sur Comporélon et celle de la Nouvelle Terre par l'entremise de Joie, pour qu'elle vous considère d'un œil favorable, afin de vous permettre de poursuivre votre voyage.
Trévise eut un sourire un peu triste.
J'aurais bien dû me douter que je n'y étais pour rien.
Daniil accepta la déclaration, mais revint sur son triste aspect autodépréciateur.
Bien au contraire, monsieur. Vous y avez contribué pour une part considérable. Chacune de ces deux femmes vous regardait favorablement dès le début. Je n'ai fait que renforcer une pulsion déjà présente. C'est à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans le cadre strict des lois de la robotique. À cause de ses limitations, ainsi que pour d'autres raisons, ce n'est qu'au prix d'extrêmes difficultés que j'ai pu vous attirer ici et encore indirectement. À plusieurs reprises, j'ai été en grand danger de vous perdre.
Et maintenant que je suis ici, dit Trévise, que voulez-vous de moi?
Que je confirme ma décision en faveur de Galaxia?
Le visage de Daniil, bien que toujours dénué d'expression,
parut néanmoins réussir à traduire le désespoir.
« Non, monsieur. Cette seule décision ne suffit plus. Si je vous ai attiré ici du mieux que le permettait mon état actuel, c'est pour une cause bien plus désespérée. Je suis en train de mourir. »